Les quatre saisons.
La politique est un cycle.
C'est le virus qui est maître du temps.
Une symphonie perpétuelle de déclarations, de promesses.
That's not Michael Jackson, hein?
Les échecs et les trahisons les plus douloureuses.
Ce sont les aléas de la politique.
Y rencontrent la gloire et les espoirs les plus vifs.
Je jure fidélité au roi.
Aussi sûrement qu'après l'hiver,
dehors.
Reviennent les beaux jours.
Dehors, dehors.
Le Vivaldi, c'est la fin de la Belgique.
Baptiste Tupin, Imad Messoudi.
Bonjour Baptiste.
Bonjour Imad.
Cette semaine, on va se poser une question. Fera-t-il vraiment beau demain?
Et on ne vous parle pas du temps qui fait, mais bien du processus de refondation du CDH.
Et la réponse est aussi incertaine que la météo de ces derniers jours.
Les quatre saisons. La politique belge racontée à l'ère de la Vivaldi.
Vous savez qu'on est un pays compliqué, hein?
Printemps.
C'est l'histoire d'un parti qui a longtemps fait la pluie et le beau temps en Belgique.
Donc on gagne encore plus, apparemment. Il se peut qu'on devienne incontournable, mais bon, attendons de voir.
On raconte qu'il tenait le destin des gouvernements entre ses mains.
La rupture est nécessaire, elle doit être immédiate.
Un parti pilier, au ténor autrefois invincible.
PTP, tu ne vas pas crever ici.
Pivot de toutes les grandes coalitions de la deuxième moitié du XXe siècle.
Je suis fier de ce que le CDH et son ancêtre, le PSC, a pu accomplir pour les citoyens de ce pays.
Mais il est loin le temps de la gloire.
Aujourd'hui, autre temps, autres attentes.
Le président du CDH, Maxime Prévost, joue l'avenir de son parti.
C'est une mise en danger.
Sur une fragile prévision météorologique.
Que la grisaille des esprits soit dissipée. Que les éclaircies se refassent un chemin pour qu'à tout moment, demain, il fasse beau.
Il fera beau demain.
Vraiment, il fera beau demain.
Un acte de foi.
On a confiance en eux.
Un processus participatif pour sauver le CDH.
Le changement, on peut le co-construire.
Lancé début 2020, quelques mois après une défaite électorale,
le parti a atteint un score historiquement bas lors des dernières élections.
Cette réflexion devait insuffler une nouvelle dynamique au parti.
Et que le soleil résolument brille pour tous.
Mais à tout miser sur le beau temps,
il fera beau demain.
On n'est jamais à l'abri d'un coup de tonnerre. Le coronavirus a cassé l'élan de ce processus participatif de refondation. Alors cette semaine, on s'est demandé si le CDH parviendrait un jour à renouer avec les succès électoraux.
Quitter notre zone de confort.
Si le centre démocrate humaniste réussira à se réinventer au point de séduire à nouveau les électeurs.
Pour offrir de nouvelles utopies.
Parce qu'en réalité, cette profonde introspection des ex-socio-chrétiens ne date pas d'hier. C'était il y a 19 ans, presque jour pour jour.
Ne dites plus PSC, dites CDH.
Le 18 mai 2002.
Après plus de deux années de réflexion, le sigle PSC est donc mis au placard.
Dans une fini le C de chrétien. L'accent est alors mis sur le H.
Comme humanisme.
Tout comme le CDH aujourd'hui, le PSC était alors dans l'opposition après une lourde défaite électorale.
H pour homme.
Comme le CDH aujourd'hui, le PSC se lance dans un relooking complet, sous l'impulsion de Joël Milquet à l'époque.
Moi j'ai envie vraiment de travailler à une nouvelle offre politique.
Et le discours que tient alors Joël Milquet n'est pas très éloigné de celui tenu par Maxime Prévost deux décennies plus tard.
On sait que ce modèle est complètement dépassé.
Nos modèles politiques sont épuisés.
Les nouvelles générations aujourd'hui, elles ne raisonnent plus en appliquant cette grille de lecture systématique gauche-droite.
La droite, la gauche, les clivages confessionnels, les gens ont envie d'autre chose.
Quitter ce schéma du toujours plus pour être dans un système où on chérit le mieux. Privilégier la qualité de la vie plutôt que la quantité des biens.
Face à l'individualisme, au matérialisme, il faudrait peut-être reparler de l'homme, de son épanouissement.
20 ans séparent pourtant bel et bien ces déclarations.
On va tourner une page, celle du CDH.
Aux mêmes mots, les mêmes remèdes.
On va en écrire de nouvelles.
Comme si l'histoire se répétait pour le CDH.
À plusieurs bras, plusieurs mains, avec les citoyens.
Tu ne vas pas crever ici.
Alors avec le même genre de recette, qu'est-ce qui ferait que cette refondation-ci serait la bonne?
Que la grisaille des esprits soit dissipée.
Le CDH est à nouveau à la croisée des chemins.
Que les éclaircies se refassent un chemin.
Lui qui faisait encore la pluie et le beau temps au XXe siècle.
Et que le soleil, résolument,
est condamné à changer pour de bon.
Brille pour tous.
S'il ne veut pas être emporté par les aléas du climat politique.
Il fera beau demain.
Il fera beau demain avec un nom pareil de processus de refondation. Les quatre saisons ne pouvaient pas passer à côté d'un épisode à ce sujet. Les plus jeunes n'auront peut-être pas reconnu la voix de Paul van den Buynens, ex-premier ministre social-chrétien qu'on appelait VDB à la gouaille inimitable. Alors, le PSC hier, le CDH aujourd'hui, un autre nom demain, sans doute, en 2022 ou en 2023. Ce parti est-il en voie de disparition ou pourra-t-il retrouver les 20% aux élections comme l'espère Maxime Prévost? Comme chaque semaine, on prend le temps de l'analyse avec toi, Imad, bien entendu. Ouais. Bonjour.
Salut.
Mais on a le plaisir d'accueillir aussi Laurent Debrie. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le pilote du mouvement Il fera beau demain, la cheville ouvrière de ce processus de refondation. C'est vous qui animez le chantier de refondation du CDH, parti pour lequel vous travaillez depuis une quinzaine d'années maintenant, si je ne me trompe pas.
2007.
Oui, un peu moins.
Mais c'est ça, voilà.
On est presque,
tout à fait.
Vous êtes aussi professeur de philosophie à l'Université de Namur et vous avez écrit un livre au titre évocateur « Le sens du politique, essai sur l'humanisme démocratique ». Avant d'évoquer avec vous l'avenir de l'humanisme politique, on va d'abord faire un petit bilan, Imad, de l'évolution du poids électoral du CDH depuis sa naissance, donc en 2002-2003.
C'est ça, et on va se concentrer sur l'échelon fédéral. Le CDH s'est présenté face à l'électeur assez vite, en 2003. 4 ans donc après le séisme, le renvoi dans l'opposition des sociaux-chrétiens qui était une première depuis la Seconde Guerre mondiale. En 2003 donc, le CDH continue de perdre des voix, ce qui n'est pas surprenant, le parti est à ce moment-là en pleine reconstruction. 4 ans plus tard, on est en 2007, c'est la fin des années Verhofstadt. Et donc après un retour au pouvoir dans les entités fédérées, le CDH reprend quelques couleurs, enfin surtout à Bruxelles, avec quand même une hausse significative et 2 sièges de plus à la Chambre. C'est, on a regardé dans nos archives, le dernier vrai succès électoral pour le parti. Les élections suivantes, toutes les élections suivantes verront une baisse structurelle, 1 siège en moins en 2010, des voix en moins en 2014, et puis la grosse chute en 2019 avec 4 sièges en moins à la Chambre.
Laurent Debrie, il fera beau demain. Est-ce que c'est d'abord et avant tout pour stopper cette lente érosion électorale, ou est-ce qu'il y a plus que ça derrière ce mouvement ?
Non, c'est la conviction qu'il faut co-construire un nouveau mouvement politique, que le CDH n'aura plus de victoire électorale, puisque le CDH va passer le relais à un nouveau mouvement politique. Et j'espère que ce nouveau mouvement politique, lui, pourra recueillir l'assentiment des électeurs. Donc c'est vraiment une ambition de co-construire avec les citoyens et les militants, donc dans un lieu de dialogue entre les deux, un nouveau projet politique qui puisse assurer qu'il fasse beau demain, sachant que ce n'est pas une promesse, c'est une ambition, et que ce ne le sera possible que si on se mobilise.
Oui, mais le point de départ, c'est quand même ce sentiment peut-être que l'électeur ne répond plus présent et que donc on ne remplit plus en tant que parti, que vous ne remplissez plus en tant que parti le rôle sociétal qui doit être le vôtre.
Oui, c'est exact. Hein. Donc on a reconnu la défaite électorale qui, à mon avis, est assez saine. Hein. Au bout de 15 ans d'exercice du pouvoir, donc ce qui, me semble-t-il, est quand même une belle réussite hein, du CDH en tant que tel, avoir pu exercer des responsabilités pendant 15 ans avec un bilan qui est en général quand même, si vous regardez les scores attribués au ministre CDH en fin de législature par les journalistes, qui est en général vraiment excellent. Donc je pense qu'il n'y a pas à rougir du bilan. Mais lorsque vous êtes pendant 15 ans au gouvernement, chaque fois dans une position de parti de soutien, et que vous jouez franchement le jeu de la coopération, le jeu d'exercice du pouvoir, que vous ne faites pas de la participe opposition, c'est normal que votre identité se dilue, c'est normal que l'électeur ne voit plus exactement quelle est votre plus-value, et c'est tout à fait normal aussi que tous les partis d'ailleurs devraient régulièrement, 15 ans, adapter leur projet de politique aux nouveaux besoins de la société. Donc je trouve ça extrêmement sain, en définitive, de se repositionner, de redéfinir un projet politique.
Alors, on a entendu dans le récit les discours de Maxime Prévost et de Joël Milquet à 20 ans d'écart sont sensiblement les mêmes. Et on peut même y voir une forme de préscience de la part de Joël Milquet sur les questions de progrès. Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, ce qui va suivre le CDH, ce qui va succéder au CDH, va-t-il réussir là où le CDH, en tout cas électoralement parlant, a échoué ?
Électoralement parlant, je ne suis pas tout à fait d'accord, puisque ça a permis d'arriver au pouvoir pendant 15 ans, qu'il y a eu d'abord un premier succès que vous avez souligné. Je pense d'ailleurs que le CDH est sans doute revenu trop vite au pouvoir pour vraiment pouvoir aller jusqu'au bout de sa mutation et de la construction de son projet politique. Mais ce qui compte de toute façon, c'est plutôt de souligner effectivement, il y a des parallélismes, et c'est normal, c'est toujours un parti centriste, centré sur l'idée du développement de la personne, du lien social, de l'engagement. Et donc il y a beaucoup de la qualité de vie, hein. Donc il y a beaucoup d'éléments qui, à mon avis, restent fondamentaux aujourd'hui et qui sont en phase avec les aspirations, je pense, des citoyens. Mais il y a surtout une grosse différence. C'est que vous avez pris des extraits de Joël Milquet le jour de la transformation du PSC en CDH. Donc après que la refondation soit finie, après que le nouveau projet politique ait été défini. Et puis vous avez pris des extraits de Maxime Prévost le jour où il lance le chantier. Et donc ça montre bien exactement l'inverse en termes de procédure. En 2002, l'ouverture s'est faite après la redéfinition du projet. Ici, il s'agissait au contraire, à travers Il fera beau demain, de construire ou de créer un espace où militants et non-militants pouvaient se retrouver sur un pied d'égalité, pouvaient débattre des projets que l'on avait envie de défendre ensemble, sans se demander si on était en accord ou pas en accord avec ce que le CDH défendait hier et ce qu'il défend encore aujourd'hui, en se demandant quel projet on a envie de défendre aujourd'hui, sans s'inquiéter de l'héritage du parti. Et donc c'est cette volonté de s'ouvrir pour co-construire le projet politique qui, à mon avis, est complètement inédit en termes de processus de refondation, non seulement pour le CDH, mais également pour l'ensemble des autres partis politiques francophones.
Vous voulez vous couper complètement de ce qu'était le CDH, plus assumer l'héritage de ce qu'étaient les années Milquet, pour le dire comme ça?
Non. Le lieu, c'est un dialogue. C'est vraiment un dialogue entre militants et non-militants, avec l'idée qu'on peut s'enrichir mutuellement. Et lorsque vous entrez en discussion avec quelqu'un et que vous évoluez, que vous transformez, que vous êtes enrichi donc par l'autre, vous n'avez pas l'impression de vous être trahi, vous n'avez pas l'impression d'avoir fait une rupture avec ce que vous étiez. Donc c'est vraiment ce modèle-là. Évoluer, être enrichi, faire un certain nombre de ruptures, parce que justement, on accepte de se remettre en question, sans avoir pour l'instant, pour autant, l'impression que l'on a trahi ce que l'on était. Au contraire, on s'est amélioré, on s'est enrichi grâce au dialogue.
Alors vous avez évidemment joué un peu de malchance, puisque on peut difficilement imaginer plus compliqué à organiser qu'un processus participatif en pleine période de pandémie. Or, vous aviez commencé deux mois avant que le Covid n'éclate. Est-ce que ça a quand même fonctionné un peu? Est-ce que ça a tourné un peu? Ou est-ce que vous reportez simplement l'échéance qui, normalement, vous auriez dû terminer maintenant? Vous reportez l'échéance d'un an, un an et demi à cause de la pandémie?
Alors effectivement, c'était très très bien parti. Hein. Donc les deux premiers mois, juste avant le Covid, il y avait une très belle énergie. On avait aussi un intérêt médiatique important. On avait fait des premiers événements qui s'appelaient des rêves partis, dans le jeu de mots pour justement...
Difficile en ce moment.
Oui, non, mais je pense qu'on a besoin justement de se projeter dans un demain que l'on a envie de reconstruire. Donc je pense qu'il faut souligner à quel point c'était bien parti. Et puis effectivement, la pandémie nous a obligés à nous replier, comme tout le monde, sur plutôt le virtuel, sur des débats online, avec là aussi un succès important, parce que...
Ça marche dans un premier temps.
Ça marche dans un premier temps, mais quand même, il y a plus de 20 000 personnes qui suivent la page Facebook, qui suivent ce que l'on fait online, et c'est une sociologie totalement différente du CDH, donc on est parvenu vraiment à créer ce lieu où militants et non-militants peuvent se rencontrer sur un pied d'égalité. Mais vous avez tout à fait raison, un processus participatif qui a l'ambition de co-construire un projet politique, qui a l'ambition de recréer un lien entre citoyens et politiques, ne peut pas se faire que dans le virtuel. Là, vous avez tout à fait raison, et vous avez raison aussi de dire qu'il y a une forme d'essoufflement, tout le monde en a marre du virtuel, etc. Donc c'est pour ça que, oui, on a repoussé, on aurait dû clôturer maintenant, on clôturera début 2022 le processus, et pour nous, le moment participatif par excellence, le moment de la rencontre directe avec les citoyens, le moment où chacun va pouvoir s'engager dans le projet s'il le souhaite, saisir la main que nous tendons, ce sera l'automne, lorsque la vaccination faisant son effet, on pourra renouer avec des événements participatifs, peut-être des événements de petite taille, mais ce n'est pas grave, parce que l'important pour nous, c'est d'être dans une dynamique inclusive, dans une dynamique participative, où on ne se contente pas d'écouter des experts, mais où chacun a l'occasion de prendre la parole.
Et qu'est-ce qui se passe si au terme de cette dynamique participative, vous vous rendez compte que vous n'avez pas de projet différenciant par rapport aux autres partis? Si finalement, le projet co-construit avec les citoyens, les militants, ressemble, je ne sais pas, à ce que fait le PS, écolo ou le MR? nécessaire. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Parce que c'est pas, on ne peut pas l'exclure.
Non, on ne peut pas l'exclure, hein, mais de toute façon, je veux dire qu'un parti, un mouvement, la structure, elle n'a pas de fin en soi. Ce qui compte, c'est le projet qu'elle défend. Mais je vous avoue que je ne crains pas vraiment cela. Si c'était le cas, ben on en tirerait les conclusions. Mais je suis convaincu qu'il y a place pour un projet centriste qui se distingue des autres, d'ailleurs dont les contours sont parfois flous. Hein. Je ne suis pas du tout convaincu aujourd'hui que la distinction entre les partis politiques correspond nécessairement à la distinction entre les visions politiques. Il y a au sein des autres partis parfois de grosses différences entre différents courants.
Alors la posture centriste, on va en parler, on va écouter Maxime Prévost.
La posture centriste est fragilisée aujourd'hui, ça c'est vrai. Face à un univers médiatique qui favorise la petite phrase, l'outrance, la posture clivante...
Et des politiques qui en jouent.
Et effectivement, puisque c'est un cercle vicieux, hein, l'un se nourrit de l'autre, un parti centriste est probablement plus en difficulté puisqu'il a toujours chéri la nuance, cherché des solutions équilibrées qui ne sont pas clivantes. On n'est pas en train d'essayer de chercher à flatter une clientèle spécifique du spectre électoral. On est dans une démarche où on essaye de faire sens et faire société pour tout le monde. Et donc, c'est plus compliqué. Mais si c'est compliqué, ça n'en est pas moins noble.
Alors, ce que dit Maxime Prévost est évidemment tout à fait respectable, mais n'est-ce pas naïf de vouloir représenter tout le monde alors que, peut-être jamais dans l'histoire de l'humanité, les identités n'ont été à ce point affirmées et différentes.
Oui, mais donc on en a encore plus besoin. Si on veut justement parvenir à dépasser ce choc des contraires, si on veut être quelque chose comme une forme d'antidote au simplisme, si on veut éviter que les extrêmes se bloquent mutuellement, si on veut justement être convaincu qu'il y a du changement qui est nécessaire, il faut reconstruire notre société ensemble, il faut donner un nouvel élan à notre société, ce ne sera pas en se bloquant mutuellement, en ayant une gauche, parfois une extrême gauche, une droite, parfois une extrême droite, qui se font face et qui empêchent toujours d'avancer. Ce sera au contraire en parvenant à redéfinir une forme de pacte social où on surmonte les clivages et où on retrouve un nouvel équilibre dans lequel chacun peut se retrouver, avoir la conviction qu'on pourra vivre mieux demain.
Mais donc vous abandonnez une posture qui a longtemps été celui du CDH de Joël Milquet, qui était plutôt une posture de centre-gauche assumée, pour aller vers une posture centriste pur, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est possible?
On verra quelle sera la position, mais bon, après que Joël Milquet et vous la cataloguez de centre-gauche, je pense que c'est essentiellement dû aussi aux alliances que l'électeur a poussé à faire à ce moment-là. Je pense que c'est plus compliqué.
C'est de circonstances alors.
Je pense qu'une des convictions que nous avons, c'est que le projet politique doit permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même. Et quand vous avez cette idée que chacun doit pouvoir donner le meilleur de lui-même, vous voyez la double dimension. Il y a à la fois une obligation du collectif à permettre à chacun de le soutenir, de le développer, de lui donner les armes pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Ça sera le courant plutôt de centre-gauche. Mais vous avez également ceux qui vont vous dire « Oui, mais il faut donc que chacun donne le meilleur de lui-même, fasse de son mieux au profit de la collectivité. » Et cette dimension de responsabilité, d'engagement, d'initiative, ça, ce sera plutôt le côté centre-droit. Et donc, cette même valeur, cette même objectif de vivre dans une société où chacun peut donner le meilleur de lui-même explique bien la position du centre. Et selon que vous le regardez d'un côté, vous avez plutôt une dynamique de centre-gauche, que vous le regardez de l'autre, vous avez plutôt une dynamique de centre-droit.
Dans un monde qui est très polarisé aujourd'hui, et dans un monde francophone aussi où la politique se fragmente, a tendance à se fragmenter ces 15 dernières années, est-ce qu'on ne va pas arriver à une recomposition du paysage politique où c'est justement le centre qui en pâtirait? On vous en parle parce que Maxime Prévost a évoqué cette possible recomposition du paysage politique il y a quelques mois ici, dans le Grand Oral.
À l'échelle du pays, quand on voit le nombre de partis, une réflexion sur la recomposition sera probablement utile à terme. Mais moi, je ne suis pas en tout cas en train de dire « je tourne la page du CDH pour pouvoir aller me jeter dans les bras d'un autre ». On veut d'abord recréer quelque chose qui offre une nouvelle utopie positive. Et puis, il y a probablement un rapport nouveau à entretenir et à créer avec les autres. On a une nouvelle génération de présidents de parti maintenant, quasi dans tout le pays et singulièrement dans l'espace francophone. C'est aussi une opportunité.
Alors, d'abord recréer quelque chose et puis évaluer un rapport nouveau, voir si c'est possible un rapport nouveau. Ce rapport nouveau, ce serait quoi? Une éventuelle fusion des cartels avec d'autres partis, ou c'est pas du tout ça que veut dire Maxime Prévost?
On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Et de nouveau, je trouve dommage d'aborder la question par la question de la structure. Et finalement, une structure ne sert qu'un projet. Et donc, si un projet est mieux défendu en faisant une structure plus large, pourquoi pas? Mais ça peut être tout à fait autre chose aussi. C'est l'idée que des personnes de partis différents, de mouvements différents, peuvent collaborer lorsqu'ils sont en responsabilité, et même parfois entre l'opposition et la majorité. Donc, c'est plutôt une question d'état d'esprit. Se dire que dans les partis politiques, il faut sortir d'une logique standard Anderlecht où les rouges ont raison parce qu'on est rouge, et les oranges, si je puis dire, garder notre couleur politique, les oranges ont raison parce qu'on est orange. Non, il faut sortir de ce côté.
C'est comme ça que fonctionne le débat politique.
Eh bien, c'est pour ça que ça ne marche pas. Et je crois que c'est une des choses qui sature complètement les citoyens. Et c'est pour ça que nous avons un manque d'efficacité du politique. Ce qui compte, c'est que de trouver les personnes de bonne volonté qui ont un esprit constructif et se disent, si on est au pouvoir, on a une responsabilité envers les citoyens de parvenir à avoir des accords, à faire des réformes, à faire avancer, à montrer que notre action est efficace. Sinon, c'est du lose-lose, en définitive, pour les partis de responsabilité, les partis de gouvernement, et seuls les partis extrémistes, les partis contestataires, y gagnent. Donc on doit d'abord se concevoir comme des alliés objectifs au service du citoyen. Et c'est ça le plus important. Que cela se fasse dans des structures communes ou dans des structures différentes, mais en coopérant, ça a finalement peu d'importance.
Et cette coopération, elle est possible dans un système démocratique comme le nôtre, avec des élections qui impliquent justement une concurrence entre partis?
Je pense que c'est l'intérêt des partis de gouvernement, des partis de responsabilité, de tous. Parce que comme je viens de le dire, ils sont maintenant en concurrence d'abord face aux partis contestataires, face aux partis extrémistes. C'est vrai que les partis classiques avaient l'habitude de monopoliser le champ politique et de se battre pour l'ensemble des sièges et se répartir le gâteau électoral, si je puis dire. Mais aujourd'hui, ce gâteau, il se rétrécit et tous les partis perdent. Vous avez mis en avant que le CDH avait eu des défaites électorales, mais quel parti de gouvernement n'a pas eu des défaites électorales très régulières? La dernière fois, à part Écolo, mais qui, on sait bien que les années 9, ça se passe bien, les années 4, ça se passe mal. Voilà, hein, mais donc voilà, sinon, c'est la tendance de fond, c'est que tous les partis de responsabilité, tous les partis de gouvernement perdent. Et donc, ils doivent.